Imaginez un instant qu'on essaye de combattre un réseau extrémiste mondial. Un réseau qui est ultra-financé, présent partout sur Internet.
Ouais, la menace moderne par excellence.
Exactement. Et imaginez qu'on combatte ça non pas avec des flottes de drones ou des descentes de police, mais avec la recette d'une grand-mère, un contrat juridique rédigé au 8e siècle et un réseau d'aumônières de prison.
C'est sûr que dit comme ça paraît complètement décalé.
C'est clair, on pourrait même penser que c'est naïf, voire suicidaire, quoi.
Ah bah totalement, mais en fait c'est très exactement l'architecture du système d'exploitation sociale et spirituelle qu'on va explorer aujourd'hui. D'ailleurs, bonjour et merci de m'avoir invité pour cette analyse.
Bonjour, et je suis vraiment ravie de vous recevoir pour décortiquer ça. Pour les personnes qui nous écoutent, l'ouvrage qui guide notre exploration en profondeur s'intitule Le Maroc n'a pas seulement une religion, il a une géographie spirituelle. C'est écrit par Adnan Ben Charoun et publié en 2026.
Voilà. Et pour visualiser un peu l'espace dans lequel on va plonger, il faut vraiment imaginer un décor où les époques entrent en collision directe.
Genre un choc visuel.
C'est ça. D'un côté, on a les arches en pierre très massives d'une ancienne médina, avec d'immenses étagères remplies de manuscrits théologiques qui sont usés par les siècles.
L'image classique de la tradition, quoi.
Exactement. Mais de l'autre côté, juste là, éclairant ces vieux parchemins, il y a la lueur froide et la nervosité numérique d'un écran de smartphone qui diffuse des vidéos virales en boucle.
Ah oui, le contraste est fort.
Et c'est très précisément à ce carrefour, dans ce point de friction intense entre une tradition millénaire ultra-locale et une modernité mondialisée immédiate, que se joue tout notre sujet d'aujourd'hui.
Bon, décortiquons tout ça. Notre mission aujourd'hui, c'est pas de faire un cours magistral d'histoire, mais vraiment de comprendre une mécanique. Ce que l'auteur appelle l'islam made in Morocco.
Et c'est une approche fascinante.
Parce que d'habitude, les analyses sur la religion se concentrent sur des dogmes, tu vois, des textes abstraits descendus d'en haut et appliqués de force.
Oui, la vision très descendante de la foi.
Voilà. Alors que Ben Charoun montre le contraire. Ici, la foi s'est tissée directement dans le territoire, dans la terre, la boue, le quotidien. Et ça a créé un pare-feu assez surprenant contre les extrémismes modernes.
Mais pour bien comprendre ça, il faut revenir à la base matérielle.
Le territoire avant l'islam.
C'est ça. L'erreur classique, c'est de penser qu'une religion arrive dans un désert culturel.
Comme si c'était une page blanche.
Ce qui est jamais le cas.
Bah non!
Les populations amazighes, bien avant le 8e siècle, elles avaient déjà une relation extrêmement charnelle et sacralisée à leur géographie.
C'est-à-dire?
L'espace n'était pas juste une ressource qu'on exploitait.
Pas du tout.
Une montagne spécifique, une source d'eau souterraine, une grotte un peu particulière. Tout ça, c'était une véritable infrastructure de point de contact avec l'invisible. La terre elle-même commandait un respect spirituel profond.
Ce qui rend l'arrivée de l'islam, et plus particulièrement l'histoire d'Idriss Ier, hyper révélatrice en fait.
Absolument.
Parce que l'histoire classique nous vend souvent l'expansion religieuse comme une pure conquête militaire, un rouleau compresseur qui aplatit tout sur son passage.
Oui, le cliché de la conversion par l'épée.
Voilà. Mais le livre insiste sur la notion de négociation. Idriss Ier arrive avec son aura religieuse, c'est sûr, sa filiation prophétique, mais il rase pas la structure locale pour imposer la sienne. Il forme une alliance avec les tribus amazighes.
Et c'est là toute la nuance.
Pour utiliser une analogie technologique, c'est pas un formatage de disque dur qui efface toutes les données précédentes, c'est plus comme l'installation d'un nouveau système d'exploitation, disons l'OS Islam.
J'aime beaucoup l'image.
Et cet OS, il a été minutieusement codé pour être compatible avec les composants matériels déjà présents. La langue amazigh, les coutumes tribales et ce fameux rapport mystique à la nature.
Physiquement sur le territoire.
Dans le paysage.
Ouais, les anciens sanctuaires préislamiques, tu sais, ces fameuses sources ou grottes qu'on évoquait, bah ils n'ont pas été condamnés pour hérésie.
Ah, ils n'ont pas été détruits.
Non. Ils ont été réinvestis de l'intérieur. Ils sont devenus des lieux de retraite pour des figures pieuses et ensuite des zaouïas, c'est-à-dire des confréries locales.
D'accord, donc le paysage s'est rempli de saints locaux.
Exactement. L'idée, ce n'était pas du tout d'en faire des divinités parallèles, mais plutôt de fournir des repères mémoriels. Le sacré est devenu une figure de proximité, quelqu'un qui a vécu là, qui a marché sur la même terre. Ça crée une continuité affective fondamentale pour la cohésion sociale de la région.
Et au cœur de cette cohésion affective, le livre met en lumière un concept omniprésent. C'est la baraka.
Ah, la fameuse baraka.
C'est un mot qu'on entend super souvent, même en français d'ailleurs. Parfois, on traduit ça à la va-vite par de la chance ou une bénédiction. Mais l'auteur explique que c'est une véritable philosophie de la limite.
C'est bien plus profond que juste de la chance.
L'idée qu'un petit commerce de quartier ou une maison très modeste peut déborder de baracas et apporter une paix intérieure immense, alors qu'un empire financier énorme pourrait en être totalement dépourvu.
C'est vraiment la qualité contre la quantité.
Mais attendez une seconde. Là, je me dois de poser la question qui fâche.
Je vous écoute.
N'est-ce pas profondément contradictoire? Ou disons, est-ce que cette idée de baraka, c'est pas juste un outil social très pratique pour romantiser la pauvreté?
Ah.
Une façon de dire aux classes populaires, vous plaignez pas de ne rien avoir, vous avez la paix intérieure, pendant que les élites accumulent les richesses. C'est pas un peu un frein à l'ambition, au final?
C'est une question tout à fait légitime, et c'est vrai qu'il y a un risque de dérive, clairement.
Donc l'auteur l'aborde.
Bien sûr. Mais si on analyse la mécanique de la baraka telle qu'elle est décrite dans les sources, c'est pas une injonction à la misère.
C'est quoi, alors?
C'est plutôt une soupape de sécurité psychologique. Contre la tyrannie de l'accumulation infinie.
Je vois.
Dans une logique purement marchande, la valeur d'un individu se mesure uniquement à sa croissance matérielle. S'il gagne pas plus aujourd'hui qu'hier, c'est un échec.
Le capitalisme classique, quoi.
Voilà. Eh bien, la baraka vient casser ce cycle en introduisant une variable qualitative. Elle dit pas qu'il est mal de s'enrichir. Elle dit que la richesse matérielle, si elle n'a pas la dimension éthique de la baraka, c'est-à-dire le partage, l'honnêteté, la paix de l'esprit, bah cette richesse, c'est un poison.
D'accord, c'est une sorte d'anticorps contre l'hypercapitalisme qui broie les relations humaines, en fait.
Exactement. C'est une limite morale intégrée au logiciel.
Sauf qu'un pays entier, au fil des dynasties, avec des millions de citoyens, du commerce international, des conflits fonciers, ça peut pas se gérer uniquement avec le concept abstrait de la baraka ou quelques sanctuaires locaux.
Non, bien sûr, il faut une structure formelle.
Et c'est là que l'auteur introduit l'architecture officielle de ce système. Ce qu'il appelle le triptyque marocain.
Les trois piliers, voilà.
Le malikisme pour la loi, l'acharisme pour la théologie et le soufisme pour la spiritualité. Sur le papier, ça ressemble à une liste super classique. Mais comment ces trois éléments interagissent réellement sur le terrain?
En fait, il faut les voir comme un mécanisme d'horlogerie. Chaque rouage empêche l'autre de se bloquer ou de tourner à vide.
Donnez-nous un exemple.
Prenons le malikisme, donc le volet juridique. C'est pas un code de loi rigide et froid tombé du ciel. Cette école a été adoptée précisément pour sa souplesse locale.
Grâce à l'URF, c'est ça?
Exactement. L'URF, c'est la coutume. Si un texte de loi général entre en contradiction avec une tradition locale qui est bénéfique et ancienne, le juge malikite a les outils pour intégrer cette coutume dans sa décision.
Tant qu'elle ne viole pas les principes de base, j'imagine.
Oui, tout à fait. Et ça donne une loi qui respire avec la société.
En même temps, le troisième pilier, c'est le soufisme, la voie spirituelle, l'émotion pure, le retrait du monde, l'extase par le souvenir de Dieu, le fameux zikr.
Oui.
Comment est-ce qu'on peut imposer une norme juridique stricte tout en valorisant une approche mystique basée sur le lâcher-prise? C'est le grand écart. Comment ces deux extrêmes s'annulent pas tout simplement?
Le secret réside justement dans le deuxième pilier qu'on n'a pas encore détaillé.
L'acharisme?
Exactement. L'acharisme, ça agit comme la clé de voûte de l'édifice. C'est une méthodologie théologique qui prône avant tout l'humilité intellectuelle.
Dans quel sens?
Elle postule que l'intelligence humaine est incapable de cerner la totalité de la volonté divine.
Ah, ce qui veut dire qu'il est impossible pour quelqu'un de dire « je détiens la vérité absolue et tu as tort ».
Précisément. L'acharisme sert de pont. Et pour illustrer comment ces trois piliers résolvent une contradiction, imaginons un scénario très concret.
D'accord.
Imaginez un violent conflit de voisinage autour d'une oliveraie, avec un problème de droit de passage pour l'irrigation.
Un classique.
Si on applique uniquement le malikisme de manière froide, le juge va trancher techniquement. Il y aura un gagnant légal et un perdant amer. La rancœur va s'installer pour des générations.
Et si on n'applique que le soufisme?
On dirait aux deux parties que le monde matériel n'est qu'illusion, qu'il faut abandonner les terres et prier.
Ce qui n'est pas viable si on doit nourrir sa famille.
Non. Mais avec le triptyque complet, la dynamique change totalement.
Comment ça se passe, Efino?
Le malikisme établit le cadre du droit et reconnaît les coutumes d'irrigation locale. Donc la justice matérielle est rendue.
Ok.
Ensuite, le soufisme intervient comme régulateur émotionnel. Il enseigne aux deux voisins que la colère et l'avidité détruisent l'âme. Ça aide vachement à accepter le verdict sans esprit de vengeance.
Et l'acharisme, du coup?
L'acharisme empêche l'une des parties d'utiliser la religion pour diaboliser l'autre. Personne peut dire que Dieu est de son côté.
Waouh! Le droit règle le conflit, la spiritualité guérit la relation et la théologie empêche l'arrogance.
C'est ça. Sans le droit, le soufisme devient chaotique. Et sans le soufisme, le droit devient un code pénal sans âme.
c'est un équilibre fascinant. Le droit, l'émotion et l'humilité qui bossent de concert. Sauf que ce bel équilibre, cette infrastructure locale très sophistiquée, que se passe-t-il quand elle est percutée de plein fouet par la mondialisation ?
C'est là que ça se complique.
Bah oui, parce que si notre système d'exploitation est fait pour la nuance, comment il réagit quand un virus informatique venu de l'extérieur tente de s'infiltrer ?
Sous la forme d'un extrémisme mondialisé et bidaire.
Voilà, il faut bien un administrateur réseau pour bloquer ce virus.
Absolument. Et c'est là que le livre aborde le rôle de l'État, et plus spécifiquement du roi. L'administrateur de ce système, c'est l'institution de Amer al-Mouminin.
Le commandeur des croyants.
C'est ça. Et ce qui est vital à comprendre pour notre auditoire, c'est que cette autorité ne vient pas du tout d'une constitution moderne rédigée par des technocrates.
Elle vient d'où alors ?
Elle est ancrée dans le temps très long de la généalogie chérifienne et de la baïa. C'est un pacte d'allégeance historique qui lie la monarchie à la population.
C'est donc cette légitimité historique qui donne à l'État le poids nécessaire pour arbitrer le champ religieux ?
Tout à fait.
Et l'auteur identifie un électrochoc majeur dans cette gestion, les attentats de Casablanca en 2003.
Un tournant tragique, oui.
C'est le moment où le système réalise que le virus n'est pas resté aux frontières. Il a pénétré l'ordinateur. L'extrémisme prospère sur les fractures sociales intérieures, sur la marginalisation des quartiers périphériques.
Le constat a été brutal pour les institutions. La police et l'économie ne suffisent pas à régler un problème de désespoir existentiel. Il fallait absolument une réponse idéologique.
Des idées contre des idées, quoi.
Exactement. Et c'est là qu'intervient le travail de déconstruction du discours radical. Le texte détaille comment des institutions, comme la Rabita Mohamedia des Oulémas, ont vraiment disséqué la psychologie de l'extrémisme.
Ils ont identifié ce qu'ils nomment les 5 magnétismes de la radicalisation, c'est ça ?
Oui. Au lieu de voir l'extrémisme comme juste une folie incompréhensible, il l'analyse comme une offre très structurée qui répond à une demande émotionnelle spécifique. Il y a l'unité mythifiée, la providence matérielle, la pureté absolutisée, l'offre de certitude facile.
Et il y en a un cinquième qui me frappe particulièrement, c'est l'apocalyptisme.
Ah oui, très puissant celui-là.
Parce qu'on comprend facilement l'offre de certitude binaire. La secte te dit ce qui est bien ou mal, et paf, ça soulage l'angoisse du doute.
C'est rassurant, oui.
On comprend aussi l'illusion de pureté absolue ou l'exploitation de la misère. Mais l'apocalyptisme, comment le désir de la fin du monde peut être un argument de recrutement pour un adolescent isolé dans une banlieue ? C'est fou.
C'est paradoxal, mais ça marche extrêmement bien. Parce que ça transforme un individu invisible et marginalisé en un acteur central d'une bataille cosmique ultime.
Ah, je vois le genre.
Si on vous convainc que le monde est totalement corrompu et sur le point de s'effondrer, eh bien votre chômage, votre sentiment d'injustice, vos échecs scolaires ou personnels, tout ça perd la moindre importance.
Ça efface le sentiment d'échec personnel.
Exactement. L'idéologie radicale vient brancher la frustration individuelle sur un récit héroïque de fin des temps.
C'est pervers, mais très intelligent psychologiquement. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour la riposte de l'État ?
Ça signifie que le travail des institutions marocaines, c'est d'utiliser des arguments théologiques très pointus pour démontrer, texte à l'appui, que cette vision apocalyptique est une pure manipulation politique moderne.
Une hérésie, en fait.
Voilà. Il démontre que ça contredit totalement l'obligation islamique de préserver la vie et de construire la terre. L'État a compris qu'une balle de fusil ne peut pas tuer une idée. Pour neutraliser un magnétisme psychologique, il faut utiliser la théologie comme un scalpel.
Si on relie ça à la situation globale, l'impact dépasse largement le pays, non ?
Complètement. Aujourd'hui, via des structures comme l'Institut Mohamed VI, cette méthode est exportée.
Au-delà des frontières ?
Oui. Des imams et des étudiants venus de toute l'Afrique subsaharienne, et même d'Europe, viennent d'étudier comment démonter ces récits radicaux.
Ils viennent se former au scalpel théologique.
C'est ça. Ils apprennent à traiter la radicalisation pour ce qu'elle est vraiment, une exploitation criminelle d'une vulnérabilité émotionnelle. Une vulnérabilité qu'il faut combler par du sens, de la nuance et de la contextualisation.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que tout ce qu'on vient de décrire là, le droit malikite, les décisions de l'État, les instituts de formation, c'est une structuration par le haut.
C'est l'administration du réseau central.
Exactement. Mais le cœur du propos d'Adnan Ben-Sharoun, c'est que ce modèle survit avant tout par le bas. Il respire dans la rue, dans les cuisines, dans le temps partagé.
La religion vécue, oui.
Et il y a un paradoxe saisissant dans l'ouvrage. On perçoit presque toujours la transmission de la religion comme une affaire hyper publique et masculine. Incarnée par l'imam qui fait son prêche à la mosquée avec un micro.
C'est l'image d'Épinal, oui.
Alors qu'en réalité, la véritable infrastructure morale, le câblage profond de cette société, il repose très discrètement sur le réseau féminin du quotidien.
C'est un point fondamental du livre. La transmission de l'islam au quotidien ne se fait pas d'abord par de la jurisprudence complexe. Elle se fait par le geste.
Par les mères et les grands-mères.
Exactement. Ce sont elles qui inculquent la notion de sacré, le respect absolu pour un morceau de pain tombé par terre qu'il faut ramasser, la pudeur. La solidarité instinctive lors d'un décès dans le quartier.
C'est une morale de l'action.
Et institutionnellement, l'État a fini par reconnaître et intégrer cette force par la création des morshidat.
C'est quoi exactement des morshidat ?
Ce sont des femmes guides religieuses formées officiellement par l'État.
Mais ce ne sont pas juste des assistantes sociales améliorées, rassurez-moi. Leurs interventions sont bien plus profondes.
Absolument pas. Elles ont un rôle théologique majeur. Prenons le cas d'une morshidat qui intervient dans une prison, auprès d'un jeune homme qui commence à se radicaliser en regardant des vidéos sur Internet.
Ok.
Si on envoie un imam classique ou un représentant officiel en costume, ce jeune va probablement le percevoir comme une figure de répression, le système à rejeter.
Le blocage direct.
Voilà. Alors que la morshidat, elle, arrive avec une double force. D'abord, une maîtrise théologique impeccable pour démonter les sophismes radicaux, et ensuite une autorité maternelle et une intelligence émotionnelle qui est vraiment ancrée dans sa réalité locale.
Elle vient pas le menacer avec le code pénal, en fait.
Pas du tout. Elle vient reconstruire son logiciel interne. Elle reconnecte sa frustration à la spiritualité apaisée de son propre environnement. Elle répare le lien social à la racine.
C'est hyper puissant. Et cette notion de lien social physique, elle s'incarne aussi dans l'espace de la mosquée, d'ailleurs.
Oui, la mosquée n'est pas juste un lieu de culte froid.
Le livre rappelle que c'est pas seulement un bâtiment où l'on prie pour repartir aussitôt à ses affaires, c'est un vrai repère géographique de voisinage. C'est le carrefour où le médecin, très réputé, s'agenouille juste à côté du vendeur de légumes du coin.
Il y a un nivellement social temporaire.
C'est ça. Et l'apothéose de cette synchronisation sociale, l'auteur nous dit que c'est le mois de Ramadan. Il décrit ça comme une civilisation temporaire.
La formule est très juste. Le Ramadan agit vraiment comme un recalibrage collectif. À l'heure du ftour, c'est-à-dire la rupture du jeûne, le temps s'arrête littéralement pour tout le pays, à la seconde près.
C'est une fabrication de mémoire commune incroyable.
C'est très fort affectivement. Mais, et c'est tout à l'honneur des sources que nous explorons, le livre refuse de verser dans une carte postale idéalisée.
Ah, il y a des failles.
Bien sûr. Cette période met aussi en lumière de très graves fractures sociales. L'expérience du jeûne n'est pas du tout la même dans l'aisance matérielle que dans la précarité extrême.
C'est sûr.
De plus, il y a cette pression énorme de la surconsommation nocturne.
Ah oui, l'économie de marché qui reprend le dessus.
Exactement. Ça menace souvent de vider ce mois de sa substance spirituelle originelle pour le transformer en un banal festival consumériste. Et ça, c'est un vrai défi.
Et en parlant de défis et de menaces modernes, notre fameux système d'exploitation locale dont on parle depuis tout à l'heure, il fait face aujourd'hui à une attaque sans précédent. L'algorithme.
Ah ah, le grand adversaire de la nuance.
Mais oui, qu'est-ce qui arrive à la transmission subtile de la grand-mère ou au discours pointu de la morshidat quand c'est mis en concurrence avec un écran de téléphone qui capte l'attention 10 heures par jour ?
C'est le défi existentiel de notre époque, clairement. Si la tradition locale est notre système d'exploitation de base, des plateformes comme TikTok ou d'autres, elles agissent souvent comme un malware, un virus conçu pour contourner totalement la carte mère.
Ça court-circuite tout.
L'algorithme y recommence quoi ? L'outrance, le clivage binaire, les certitudes hurlées en 30 secondes chrono.
Ça vend une religion mondiale, déracinée et très agressive.
Exactement. Et le grand danger pour les institutions marocaines aujourd'hui, c'est plus seulement de rédiger de gros livres savants, c'est d'investir ces espaces numériques.
De jouer sur le même terrain.
Il faut réinventer le langage de la nuance pour qu'il devienne de nouveau audible auprès d'une jeunesse qui se prend une avalanche quotidienne de contenus radicaux.
En fait, c'est une bataille frontale entre le doom-scrolling anxieux, tu sais, cette habitude de faire défiler des contenus alarmistes à l'infini sur son téléphone, et le zikr, cette respiration spirituelle soufie qui ramène l'esprit au moment présent.
C'est une très belle façon de résumer la tension actuelle.
Finalement, pour quiconque nous écoute en ce moment, même si c'est des personnes sans le moindre lien personnel avec le Maroc, la région ou la religion musulmane, les enseignements de cette exploration sont profondément universels.
Ah. Ça dépasse de loin le cadre strictement marocain.
Ce modèle, il nous démontre qu'une société ne peut absolument pas commalter ses crises identitaires profondes en empilant juste des lois sécuritaires ou en promettant vaguement plus de croissance économique.
L'être humain a besoin de plus que ça.
Il a un besoin viscéral de sens,
d'une histoire partagée. Il a besoin d'appartenir à une communauté qui protège la nuance contre la pensée binaire. Cette obsession destructrice moderne de classer tout le temps les gens entre les purs et les impurs.
Et cela soulève une question importante, à la lumière de tout ce qu'on vient de décortiquer aujourd'hui.
Je vous écoute.
Si on comprend bien que la résilience face au chaos idéologique se trouve dans cette fameuse géographie spirituelle épaisse, faite de mémoire locale, de coutumes ancrées et de liens humains, on peut vraiment s'interroger sur le destin des sociétés hypermodernes qui ont fait le choix strictement inverse.
C'est-à-dire ?
Les sociétés qui ont littéralement rasé et bétonné leur propre géographie spirituelle, celles qui ont sacrifié tout rituel collectif sur l'autel de l'individualisme pur et de la rationalité marchande.
Ah oui, le grand vide de sens.
Une société peut-elle réellement survivre, sur le long terme, aux algorithmes de la haine et à la polarisation totale, si elle ne cultive plus aucun sanctuaire intérieur partagé ?
Waouh ! C'est une réflexion qui donne le vertige, honnêtement. L'analogie matérielle du début prend tout son sens. On ne peut pas espérer faire tourner un logiciel harmonieux aussi moderne soit-il si on a méthodiquement détruit tous les composants physiques du lien social.
C'est exactement ça.
Eh bien, voilà de quoi alimenter de très nombreuses discussions. Un immense merci à vous pour cette analyse lumineuse.
Merci de m'avoir invité, c'était un plaisir.
Et merci à notre auditoire de s'être plongé avec nous dans cette complexité. Prenez vraiment le temps de digérer toutes ces notions. Observez bien comment elles résonnent dans vos propres environnements, que ce soit au travail, dans vos quartiers ou sur vos écrans. Et surtout, n'arrêtez jamais de chercher les nuances derrière les certitudes apparentes. À très bientôt pour une nouvelle exploration en profondeur.